Le journal par Clarence Rodriguez.
Bonsoir. Acte 24 des Gilets jaunes. Les mobilisations les plus importantes se sont déroulées un peu partout en France, notamment à Paris et Strasbourg, même si certains annonçaient une mobilisation calme en prévision du 1er mai. Il s'agissait de la première manifestation après les annonces télévisées d'Emmanuel Macron ce jeudi, alors que le mouvement peine à se stabiliser depuis quelques semaines. Nous ferons le point sur cette journée avec Cyprien Pézeril dans un instant. Nouvelle polémique sur fond de racisme au semi-marathon de Trieste en Italie. Les organisateurs de cette course, qui aura lieu le 5 mai prochain, ont décidé au nom du refus de l'exploitation des athlètes africains qu'aucun athlète africain ne serait invité à participer à la course. Une députée européenne dénonce une épuration par le sport. Poutine crie au scandale. Le président russe dénonce vertement la condamnation par la justice américaine de Maria Boutina. La jeune russe est accusée d'avoir voulu infiltrer pour le compte de Moscou des organisations américaines, dont la puissante National Rifle Association, NRA. Elle a été condamnée à 18 mois de prison. Nous irons à Moscou dans ce journal. Acte 24 des Gilets jaunes. Les mobilisations les plus importantes se sont déroulées à Paris et Strasbourg, même si certains annonçaient une mobilisation calme en prévision du 1er mai. L'acte ultime, comme il est nommé, est placé sous le signe de la convergence des luttes. Il s'agit de la première manifestation après les annonces télévisées d'Emmanuel Macron ce jeudi, alors que le mouvement peine à se stabiliser depuis quelques semaines. Cet acte 24 a-t-il montré un nouveau souffle suite au discours présidentiel, Cyprien Pézeril?
Eh bien, une mobilisation en forte baisse, 5500 manifestants dans l'ensemble du pays à 14h. Ils étaient 9600 à la même heure la semaine dernière, selon le ministère de l'Intérieur. Les chiffres doivent être affinés dans la soirée. Des gilets jaunes principalement réunis à Paris, 2600 selon un décompte officiel. 11 d'entre eux ont été interpellés par les forces de l'ordre. Quelques centaines ont fait le tour des médias, Radio France, TF1, BFM TV et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils jugent le traitement du mouvement partial de la part des journalistes. Les autres gilets jaunes de la capitale marchaient avec les gilets rouge de la CGT, point de convergence affiché, une riposte générale au gouvernement et au MEDEF. Autre ville clé de la mobilisation, Strasbourg, près de 2000 manifestants. À noter la présence d'une cinquantaine de gilets jaunes venus d'Allemagne. En milieu d'après-midi, des heurts ont éclaté, jets de pavés et de bouteilles d'un côté, jets de lacrymogènes de l'autre. Les gilets jaunes qui voulaient investir le quartier des institutions européennes. La préfecture du Bas-Rhin parle de nombreuses dégradations dans la ville, 5 personnes ont été interpellées. D'autres manifestations ont eu lieu à Montpellier ou Rennes. À Lyon, une opération escargot a été organisée sur le périphérique. Prochaine date clé, mercredi prochain, le 1er mai, à l'occasion de la fête du travail.
Merci Cyprien Pézeril. Jean-Michel Blanquer a commenté ce matin l'engagement pris jeudi par le président de la République. Aucune fermeture d'école d'ici la fin du quinquennat sans l'accord du maire. L'éducation nationale prévoyait initialement la fermeture de 186 d'entre elles à l'automne. Le ministre de l'Éducation a tout de même prévenu que des fermetures de classes pourront avoir lieu. Aucun ministre ne pourrait vous dire qu'il n'y en aura pas, a-t-il précisé ce matin à France Info. Poutine crie au scandale. Le président russe dénonce vertement la condamnation par la justice américaine de Maria Boutina. La jeune russe est accusée d'avoir voulu infiltrer pour le compte de Moscou des organisations américaines, dont la puissante National Rifle Association, NRA. Elle a été condamnée à 18 mois de prison. À Moscou, la correspondance de Jean-Didier Revoin.
Pour le président russe, la condamnation de Maria Boutina à 18 mois de prison ne rime à rien. Les États-Unis essaient juste de sauver la face. Ils ne peuvent l'accuser de rien, mais pour éviter d'être ridicules, ils ont décidé de la condamner à 18 mois de prison, a déclaré Vladimir Poutine, qui a encore qualifié ce jugement d'arbitraire. Cette jeune femme de 30 ans avait été arrêtée en juillet dernier, accusée de chercher à promouvoir les intérêts de la Russie en infiltrant les cercles de pouvoir conservateurs par son engagement au sein du puissant lobby pro-armes américain, la National Rifle Association. Pour sa défense, la jeune femme a précisé qu'elle voulait faire carrière dans la politique internationale, qu'elle voulait jeter des ponts entre son pays et les États-Unis sans vouloir nuire à personne. Elle a ajouté que si elle avait su qu'il lui était nécessaire de s'enregistrer comme agent de l'étranger, conformément à la loi américaine, ce que les autorités lui reprochent de ne pas avoir fait, elle aurait bien sûr respecté cette obligation. Une version des faits corroborée par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a en effet assuré que Maria Boutina ne pouvait être impliquée dans les faits qui lui sont reprochés. Mais il a expliqué la condamnation de cette citoyenne russe par le fait qu'elle avait passé un accord avec le procureur et décidé de plaider coupable. La famille de la jeune femme, qui a déjà effectué 9 mois de prison, a pour sa part dénoncé un jugement politique.
L'Afrique du Sud fête aujourd'hui les 25 ans de sa démocratie. Il y a un quart de siècle, l'espoir s'emparait de plus de 35 millions de Noirs sud-africains qui pouvaient voter pour la première fois et pour leur icône Nelson Mandela. Des célébrations qui ont lieu dans un contexte particulier alors que les élections ont lieu dans 10 jours en Afrique du Sud, le pays le plus inégales du monde. Reportage à Grahamstown de Noé Auchin-Boudin.
Tous les Sud-Africains, sans exception, se souviennent de leur 27 avril 1994, acte fondateur de leur démocratie. Tengiswa avait patienté de longues heures avant de pouvoir entrer dans son bureau de vote.
Oui, j'étais ici en 1994. J'étais heureuse, excitée de voter. C'était un grand pas pour notre démocratie. Nous sommes libres. Avant, il y avait des endroits où l'on ne pouvait pas se rendre. C'était réservé aux Blancs. Maintenant, on peut aller partout, partout, partout.
Sur l'estrade, le président Cyril Ramaphosa rappelle lui aussi ses souvenirs de 1994. Il dresse le bilan de 25 ans de démocratie. Il y a encore beaucoup à faire selon lui.
On ne peut pas se considérer comme une nation libre alors que la corruption ravage notre pays.
L'Afrique du Sud est encore le pays le plus inégal au monde.
On doit s'assurer que tous les Sud-Africains puissent bénéficier des progrès socio-économiques portés par cette liberté.
En effet, les célébrations se tiennent à Grahamstown, ironiquement la ville la plus mal administrée du pays. Des habitants en colère manifestés à l'approche du cortège présidentiel, Vuyiswa, à 32 ans.
On veut juste que notre président vienne voir dans quelles conditions nous vivons à Grahamstown. On n'a pas d'eau. On avait voté pour lui, mais il se cache derrière la police maintenant. Est-ce que vous voyez de la liberté ici? Il n'y a rien de tout ça, pas de liberté. On est encore sous l'apartheid. Ils ont des armes, mais nous avons voté pour ce président.
L'ANC, le parti de Nelson Mandela, était autrefois le héros de la démocratie. Il apparaît aujourd'hui en panne d'idées pour faire sortir l'Afrique du Sud de la crise.
Sur la ligne de départ du semi-marathon de Trieste en Italie, début mai, les athlètes seront tous blancs. L'organisateur de la compétition a décidé de ne pas accepter de coureurs africains, selon ses mots, mais excluant des raisons raciales. Antonino Gallofaro.
La commercialisation des athlètes africains est en cause. Avec cette décision polémique, les organisateurs du Trieste Running Festival veulent empêcher l'exploitation de sportifs. Fabio Carini s'en prend à ses managers sans scrupules, profitant de coureurs de haut niveau. Il souhaite qu'à la première place se trouve la valeur du sportif et l'éthique. Alors décision prise, n'accepter que des Européens. Il assure que la décision n'est pas raciste. Mais en Italie, impossible de ne pas voir la même argumentation utilisée pour fermer les frontières. Pour Matteo Salvini, le chef de la Ligue, le parti d'extrême droite au pouvoir, il faut empêcher l'immigration illégale d'arriver par la mer pour mettre un terme à la commercialisation des migrants et lutter contre les trafiquants d'êtres humains. L'un de ses proches, Massimiliano Fedriga, le gouverneur du Frioul Vénétie Julienne, région dans le nord-est de la péninsule, était présent lors de la conférence de presse de présentation du semi-marathon. Ainsi s'ouvre la saison de la discrimination dans le sport. Le Parti démocrate, la principale force d'opposition, s'en prend à la décision. La députée européenne Isabelle Ademonte, candidate à sa réélection dans la circonscription nord-est, dénonce une épuration par le sport en Italie, qui est régulièrement le théâtre d'épisodes racistes, notamment contre les footballeurs noirs.
Espagne, rarement les candidats des élections législatives auront autant prononcé les mots de traîtres fascistes ou assassins à l'endroit de leurs adversaires. Un scrutin qui va sans doute marquer l'entrée historique d'un parti extrême droite au Parlement, qui s'est distingué par une campagne particulièrement agressive à Madrid, Isabelle Laberry.
C'est Pedro Sanchez qui a le plus souffert. Le chef du gouvernement socialiste, donné vainqueur demain, n'a été épargné par personne. Écoutez son principal rival en février dernier.
C'est un chef de gouvernement illégitime, le plus grand félon de l'histoire démocratique espagnole, un irresponsable, un menteur compulsif. On n'aurait jamais pu imaginer qu'une personne aussi incompétente et aussi médiocre dirige notre gouvernement. Cet homme est une catastrophe pour l'Espagne.
Des flatteries du même acabit, il y en avait 21 au total dans le discours de Pablo Casado, le leader du Parti populaire. L'atmosphère s'est tellement tendue que tout le monde s'est fait la guerre. Même ceux qui devront peut-être nouer une alliance dans les prochaines semaines, comme les centristes et l'extrême droite. Leurs chefs respectifs multiplient les invectives, avec mention spéciale pour la riposte du leader populiste Santiago Abascal sur Twitter.
C'est toi qui es malade, Carlos Alberto. On sait que tes maîtres, Emmanuel Macron et George Soros, t'ont demandé de nous attaquer. Mais comme tu ne sais proférer que des mensonges grossiers, tu vas te faire dégager et tu ne pourras plus diffamer, espèce de comique.
Au cœur de la mêlée, le chef de gouvernement est finalement l'un des rares à avoir maîtrisé son langage. Par précaution, il avait tout de même demandé que les débats télévisés entre candidats n'aient pas lieu l'après-midi pour ne pas heurter les oreilles des plus jeunes.
Un mot du temps plutôt automnal ce dimanche avec des averses de pluie, des rafales de vent jusqu'à 80 km à l'heure, des températures en baisse avec seulement 14 degrés au plus chaud de la journée.